Vous écoutez France Inter, vous avez bien raison, il est 19h. Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Il n'y a qu'une seule cible, un seul rival pour Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement National a lancé ce dimanche à Fréjus la campagne des municipales en visant plus haut vers l'Élysée. En Italie, même ambition pour Matteo Salvini, l'ex-ministre de l'Intérieur, président de la Ligue d'extrême droite, qui veut s'appuyer sur le peuple pour déloger ceux qu'il appelle les traîtres du nouveau gouvernement de Rome. Dans ce journal également, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui réfute toute instrumentalisation de la justice, comme le lui reproche Jean-Luc Mélenchon, mais elle admet en revanche des oublis dans sa déclaration de patrimoine, des oublis rectifiés dès la fin 2017. Une participation qui devrait être faible en Tunisie pour le premier tour de la présidentielle. Les bureaux de vote sont maintenant fermés. Deux nuits de violence à Auch, dans le Gers, où un jeune de 17 ans a trouvé la mort à l'issue d'une course-poursuite vendredi. Deux enquêtes ont été ouvertes par le SRPJ et l'IGPN. En sport, les Français médaille de bronze au mondial de basket, remporté par l'Espagne. Un beau bilan pour les Bleus qui ont battu l'Australie après avoir sorti les États-Unis. Place maintenant dans 5 jours au mondial de rugby au Japon où le 15 de France continue sa préparation. Dans un instant, le journal des sports de Jean-Pierre Blimeau avec aussi bien sûr le foot, la victoire de Nantes 1-0 contre Reims et puis ce soir le dernier match de la Ligue 1 Monaco-Marseille. Enfin la météo, un temps qui reste estival pour le début de la semaine.
France Inter.
Pour commencer, et si la France accordait le droit d'asile à Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain réfugié à Moscou, l'avait demandé à François Hollande et il refait sa demande aujourd'hui au président Macron par l'intermédiaire de France Inter, dont il sera l'invité demain matin. L'interview réalisée par Nicolas Demorand et Léa Salamé a été enregistrée. Seule interview radio acceptée par Edward Snowden, inculpé d'espionnage dans son pays et qui sortira mercredi ses mémoires, intitulées comme il se doit « Mémoire ». Vive, on va y revenir. D'abord, un extrait. Pour lui, Snowden, qui avait révélé l'existence d'un système de surveillance mondiale des télécommunications et d'Internet, pour lui, la vigilance reste de mise, y compris dans les démocraties comme la France.
Quand j'ai regardé l'état du monde, ce que j'ai vu et ce qui est le plus inquiétant, c'est le fait que l'on voit des défenseurs classiques des démocraties libérales qui l'abandonnent. C'est pas seulement la France, mais ça se produit en France. Et ça doit nous alarmer quand on voit toutes ces démocraties libérales occidentales qui commencent à dire « Oh, on a tellement peur du terrorisme, on a tellement peur de ceci, de cela, qu'on va commencer à détruire nos propres droits ». Mais ce qui rend les sociétés libres, c'est leur volonté d'oser, de prendre des risques. C'est notre ouverture qui crée des vulnérabilités. C'est ça ce qui nous fait être enviés par le monde. Et si on le perd à cause de la peur, on ne perd pas seulement notre liberté, nous perdons notre identité, nous perdons notre contrôle sur nos propres sociétés. Parce que nous ne sommes plus des partenaires de nos gouvernements, nous devenons les sujets de nos gouvernements.
Voilà, Edward Snowden, traduit par Michel Slotowski, une interview à écouter en intégralité demain matin à 8h20. En attendant de le lire, dès mercredi, ce que vous avez fait dès ce week-end, Ilana Mor-Youssef, verdict, vous avez trouvé le livre passionnant.
Au commencement, il y a un petit garçon de la classe moyenne qui pirate les horloges de la maison pour retarder l'heure d'aller au lit. Un adolescent que le lycée n'intéresse pas beaucoup. Pour la génération d'Edward Snowden, c'est sur le web balbutiant que les choses se passent et rien ne le captive davantage. Là-dessus, arrive le 11 septembre. Le jeune Snowden, qui fait remonter sa généalogie au père fondateur des États-Unis, veut servir son pays. Et bien sûr, à l'époque, il approuve la guerre contre l'Irak. Ce que raconte Snowden, c'est comment un gamin de 22 ans, informaticien surdoué, s'est retrouvé avec les clés des secrets les mieux gardés des États-Unis. « Quand on est ingénieur système, écrit-il, on est en bas de l'échelle, on n'a pas de pouvoir de décision, mais en un clic, on peut tout savoir de la vie de son employeur. Ce qu'il découvre à ce poste lui fait perdre le sommeil. Une cybersurveillance de masse à l'insu des citoyens. À tout instant, la NSA peut savoir ce que vous faites, ce que vous écrivez, qui vous voyez, ce que vous dites. Mieux, les informations stockées ne sont jamais détruites. Une violation, selon Snowden, de la Constitution américaine. Car dans ce livre ardu, mais indispensable si la notion de vie privée a encore un sens, Snowden se pose en patriote qui a sacrifié sa vie personnelle à ses principes.
Mémoire vive, le livre sera publié mercredi, donc simultanément dans une vingtaine de pays. Accrocher un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet, en l'occurrence l'Élysée. C'est par une métaphore assez jolie au demeurant que Marine Le Pen a lancé à Fréjus la campagne du Rassemblement National pour les municipales en visant par la même occasion l'élection suprême de 2022. Et sans y aller par quatre chemins, pour la présidente du Rassemblement National, il n'y a qu'une cible et qu'un seul véritable adversaire, Emmanuel Macron, dont elle espère qu'il sera de nouveau fragilisé par la colère du peuple à Fréjus. Maxence Lambrecq.
Les gilets jaunes lui manquent. Marine Le Pen espère les retrouver cet automne. Elle s'en cache à peine, elle qui en avait tant bénéficié lors des européennes.
Il est illusoire de croire qu'une telle commotion puisse s'atténuer par la violence d'État ou par un matraquage médiatique, qu'elle puisse s'estomper par un froncement de sourcils présidentiels ou quelques ajournements fiscaux.
Marine Le Pen veut raviver cette colère et n'a donc qu'un adversaire, Emmanuel Macron et son nouveau goût pour les concertations.
Le président de la République a décidé d'organiser un débat, oui, c'est toujours des débats, blablabla, 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 blablabla. On a eu le grand débat, là on va avoir les petits débats. Donc là, à l'Assemblée nationale, on va avoir un débat sur l'immigration, sans vote, hein. Eh bien, le Rassemblement National aura 0 minute de temps de parole.
Car le RN n'a pas de groupe parlementaire. Marine Le Pen développe ensuite un discours anti-libéral, appelant à relancer la pétition contre la privatisation des aéroports de Paris. Pas la moindre attaque, en revanche, sur la réforme des retraites et sur la PMA, signée d'un certain malaise. La patronne du RN préfère parler pendant 20 minutes, fracture territoriale, localisme et démétropolisation, en s'excusant même pour l'aridité de ses propos devant une salle dubitative. Mais elle cherche à gagner en crédibilité sur ses enjeux locaux à 6 mois des municipales. Fréjus, Maxence Lambrecq, France Inter.
En politique également, il tape fort dans le journal du dimanche ce matin, Jean-Luc Mélenchon, dont le livre paraîtra jeudi et qui continue à dénoncer la dérive autoritaire du pouvoir. Jean-Luc Mélenchon a pris pour cible principale les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Christophe Castaner et Nicole Belloubet, qui sont de son point de vue deux incapables, la risée de leur ministère et notre honte à l'étranger. Pour le leader de la France insoumise, si la garde des Sceaux laisse agir les magistrats contre lui, c'est qu'elle a peur de ses subordonnés, peur d'éventuellement éventuelle poursuite quand elle aura quitté ses fonctions, et notamment, c'est une hypothèse, précise Jean-Luc Mélenchon, notamment pour les quelques oublis fâcheux qu'elle a commis dans sa déclaration de patrimoine, en l'occurrence une maison dans l'Aveyron et 2 appartements parisiens. Propos indignes et inacceptables, a répondu l'intéressé, qui admet toutefois avoir oublié de mentionner des biens immobiliers.
Comme vous le savez, les élus, les ministres font devant la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique des déclarations d'intérêts, des déclarations de patrimoine. Dans la dernière déclaration, j'ai oublié de mentionner ces biens. J'ai effectué une rectification. La Haute Autorité de la Vie Publique a considéré que les choses s'en arrêtaient là. Je dois d'ailleurs dire également que, comme tous les ministres, nous faisons l'objet, au moment de notre nomination, d'un contrôle fiscal. Et l'administration fiscale, en effectuant ce contrôle, s'est aperçu que j'avais effectué un trop-perçu à l'égard de l'État.
Nicole Belloubet sur LCI, la garde des Sceaux qui juge absurde sur le fond les attaques de Jean-Luc Mélenchon contre les magistrats, en regrettant qu'il soit dans l'invective, le fantasme et le complot, et en réfutant toute instrumentalisation de la justice à des fins politiques. En Tunisie, 16% de participation à la mi-journée, c'est peu et c'était attendu. Les Tunisiens ne se sont pas passionnés pour cette deuxième élection présidentielle démocratique de leur histoire. Aujourd'hui, malgré le large éventail de choix, 26 candidats mais dont aucun ne se détachait vraiment. Savoir à qui profitera l'abstention si les chiffres sont confirmés. Les bureaux de vote sont maintenant fermés. Reportage à Tunis cet après-midi, Maureen Mercier.
Les Tunisiens arrivent au compte-gouttes devant le bureau de vote de la Goulette, un quartier populaire non loin de la capitale. Pour la plupart, ils sont âgés, pas de jeunes. Cet homme attend son tour pour voter. Il a attendu la fin de journée pour se prononcer.
Je dois voter parce que je suis un citoyen.
Mais comme tant d'autres, cet électeur à quelques secondes de voter ne sait toujours pas qui choisir.
Franchement, je n'ai aucun choix. Je ne sais à qui voter. Je vais voir la liste. Et je vais voter, on disait Zribi, je ne sais pas, comme l'ex-militaire, je ne sais pas quoi. peut-être celui-là, peut-être un autre.
Les 26 candidats n'ont eu que 2 semaines pour présenter leur programme. Les électeurs ont du mal, du coup, à faire leur choix. Lors de la dernière présidentielle en 2014, ils avaient dû départager 2 tendances politiques, les islamistes et les séculiers. Aujourd'hui, le choix est bien plus compliqué. Des forces populistes ont émergé et surtout, les préoccupations des électeurs ont changé. Ils ne savent pas forcément quel président choisir, mais ils savent sur quoi il devra se concentrer.
Surtout l'économique. Notre dinar est à bas fond. Tout est cher. Tout est cher.
Les résultats officiels doivent tomber mardi au plus tard, mais tout laisse à penser que le taux de participation sera faible. À 13h, dernier décompte officiel, il dépassait tout juste les 16%. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Et après ce premier tour de la présidentielle, auront lieu les législatives le 6 octobre, avant le second tour, le 23 octobre. En Italie, Matteo Salvini s'en va en guerre, sans surprise, après avoir été écarté du nouveau gouvernement. L'ancien ministre de l'Intérieur, président de la Ligue d'extrême droite, a pris aujourd'hui la tête de l'opposition contre ses ex-amis du mouvement 5 étoiles, désormais alliés aux sociodémocrates. Dans un meeting à Pontida, petite ville du nord de la péninsule et qui fut le fief originel de la Ligue, il a dit sa détermination à combattre ceux qu'il qualifie de traîtres, des traîtres retranchés dans leur bureau et auxquels le peuple un jour demandera des comptes. Marie Duhamel.
Tutti con Matteo Salvini!
Tous avec Matteo Salvini, acclamation, vuvuzela. Les militants galvanisés, collés les uns aux autres, agitaient leurs banderoles. Sur l'estrade pendant 3 heures, une véritable démonstration de force. Des maires, des gouverneurs du nord, du sud, des élus européens, des dizaines de parlementaires. La Ligue a perdu 10 points dans les sondages, mais tous restent résolument unis derrière leur capitaine. Matteo Salvini qui s'en est pris au président du conseil, Giuseppe Conte, son ancien supérieur et nouvel adversaire, qui l'accuse d'avoir bradé les intérêts de son pays, ce que lui ne fera jamais, il le dit en français.
Le peuple italien n'est le laquais du person.
Les petites discussions avec Merkel ou Macron, on les laisse aux traîtres du peuple italien.
Une heure à la tribune, Matteo Salvini se montre combatif. Il ne lâche rien, dit-il, ne le fera jamais. Il programme des rencontres mensuelles avec les élus locaux. Un grand rassemblement à Rome le 19 octobre prochain. La campagne électorale a commencé.
Je vous invite à être déterminés, courageux et patients, parce qu'ils peuvent éviter d'aller aux urnes pour quelque temps, mais pas à l'infini. Et nous devons attendre parce que cela sera notre tour.
En attendant, une méthodologie, sourire à ses ennemis et ouvrir sa porte à tous ceux qui ne se sentiraient trahis par la politique migratoire ou économique du nouveau gouvernement. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
En bref, un nouveau dimanche de manifestation à Hong Kong où des dizaines de milliers de personnes ont encore bravé l'interdiction de se rassembler dans le centre-ville. De nouveau, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des accusations insensées pour l'Iran qui dément toute responsabilité dans l'attaque de drones hier en Arabie Saoudite. Attaque revendiquée par les rebelles yéménites qui ont visé 2 des plus importants sites pétroliers du pays en provoquant la suspension provisoire de toute activité sur place, ce qui représente environ la moitié de la production nationale de pétrole et pourrait provoquer dès demain une hausse des prix du baril. Dans le Gers, en France, que s'est-il passé précisément vendredi après-midi sur une petite route de la commune de Pavie, près d'Auch, où au terme d'une course-poursuite avec la police, un jeune de 17 ans d'origine géorgienne est mort dans des circonstances qui restent à élucider, Alain Gastal.
Le parquet d'Auch a ouvert 2 enquêtes. La première pour tentative d'homicide sur agent dépositaire de l'autorité publique, car l'un des policiers sur le barrage dit avoir échappé de peu au véhicule lorsque celui-ci est passé en force. C'est à ce moment-là que son collègue a ouvert le feu en direction de la voiture volée et la deuxième enquête confiée à l'IGPN devra déterminer si ce tir a quelque chose à voir avec l'accident qui, quelques centaines de mètres plus loin, a coûté la vie à l'un des 3 occupants éjectés de la voiture après plusieurs tonneaux. La victime est un jeune homme de 17 ans, habitant le quartier sensible du Grand Garros à Auch, un quartier qui depuis s'est enflammé 2 soirées et 2 nuits consécutives. Une 15aine de voitures en tout ont été brûlées, ainsi que plusieurs poubelles et conteneurs à ordures. Les pompiers venus pour éteindre les flammes ont parfois été caillassés sans qu'il y ait de blessés. De nombreux renforts de police ont depuis été envoyés sur place. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Une autopsie demain devrait permettre de déterminer ce qui a causé la mort du jeune garçon. En Seine-et-Marne, des malfaiteurs cagoulés qui foncent sur un barrage de police la nuit dernière près de Melun. Ils venaient de cambrioler une société de logistique. Ils ont réussi à s'enfuir. Aucun des policiers n'a été blessé. Et puis à Sens, dans Lyon, le policier qui avait causé un accident provoquant la mort d'un adolescent à scooter, un adolescent de 16 ans, le policier a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et placé sous contrôle judiciaire. judiciaire. Au volant de sa voiture personnelle, il présentait un taux d'alcoolémie positif. La route.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stages de révision et cahiers de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Le point sur les routes du dimanche soir, Thomas Coignac.
Oui, et c'est un dimanche soir beau et chaud au niveau de l'Atlantique, alors c'est compliqué de quitter les plages du nord au sud. Vous mettez 3 quarts d'heure pour partir de la presqu'île de Quiberon en Bretagne, pareil en Vendée depuis l'île de Noirmoutier, presque 2 heures pour accéder au pont de l'île de Ré, 1h30 pour quitter le bassin d'Arcachon en Gironde. Et puis, sur les autoroutes, à vous signaler ce gros bouchon sur l'A10 qui vous fait perdre environ 1 heure dans le sens Bordeaux-Paris à cause d'un accident au sud de Niort, très précisément au niveau de Beauvoir-sur-Niort.
Thomas Coignac au PC Mobilité de Radio France Le Temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Demain, les températures vont conserver un caractère estival sur la plupart des régions, jusqu'à 32-34 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la Bourgogne, le Centre, le Limousin, le Poitou-Charentes, dans le Sud-Ouest et en moyenne Vallée du Rhône. Il fera 28 degrés en moyenne dans le quart Nord-Est, sur le Val-de-Loire, le bassin parisien et l'intérieur de la Bretagne, et 21 à 24 degrés plus près de la Manche. Le soleil va conserver les commandes sur une grande partie du pays en ce début de semaine, sauf le long de la Manche, où le ciel plus durablement chargé qu'au cours du week-end pourra donner quelques pluies passées la mi-journée, en particulier sur les Flandres et l'Artois. En marge, des nuages d'altitude sans conséquence vont survoler le nord de la Loire. Dans la moitié sud, surtout sur le relief, les cumulus vont devenir menaçants en donnant ponctuellement une averse, voire un orage.
France Inter, bientôt 19h17, on passe au sport. Le journal des sports, c'est avec vous, Jean-Pierre Blimaud, bonsoir.
Bonsoir Yves.
On commence avec le championnat du monde de basket qui s'est achevé aujourd'hui en Chine avec la victoire de l'Espagne. Mais la France revient avec une très belle médaille de bronze.
Et cela au prix d'une victoire de 8 points face à l'Australie, 67-59 aujourd'hui, lors du match pour la 3e place et au terme d'une rencontre à deux visages, Vincent Pellegrini.
On a longtemps cru que les Bleus allaient rester au pied du podium. Dans la foulée de leur demi-finale ratée face à l'Argentine, ils ont longtemps balbutié leur basket, une adresse en berne, un manque d'agressivité défensive, beaucoup de ballons perdus. Au début du 3e quart-temps, les hommes de Vincent Collet accusaient un retard de 15 points. C'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé les ressources pour revenir dans le match, sous l'impulsion notamment de Nando De Colo et du capitaine Nicolas Batum. Le dernier quart-temps a été totalement à leur avantage. Ce succès offre un podium aux coéquipiers de Nando De Colo, meilleur marqueur du match avec 19 points.
Bien sûr que c'est plus qu'un lot de consolation, je veux dire. C'était pas la médaille qu'on espérait au début, mais voilà, c'est toujours compliqué d'aller jusqu'au bout. Et je pense que tout sportif, quel qu'il soit, sait à quel point c'est compliqué d'avoir une médaille. Ce soir, on pouvait pas se dire de rentrer à la maison sans rien. Certes, il y a la qualification pour les JO, c'est très bien. Mais comme je l'avais déjà dit, c'était que le minimum. Et ce soir, on a fait un excellent boulot. On a encore vu l'esprit de notre équipe qui s'est battue jusqu'à la fin. Et voilà, on a arraché cette victoire.
Un titre de champion d'Europe en 2013, 2 médailles de bronze consécutives en Coupe du Monde. Une réjouissante continuité dans les résultats pour une équipe qui a su gérer la retraite du duo Tony Parker-Boris Diaw. Et cette place dans le dernier carré de ce mondial permet donc aux Bleus de se qualifier pour les JO de Tokyo l'an prochain. Ce sera leur 3e tournoi olympique consécutif.
Vincent Pellegrini, alors la France 3e, c'est donc l'Espagne qui finit championne du monde pour la 2e fois après sa très nette victoire contre l'Argentine, 95-75, c'était en finale. Et puis restons dans les sports de salle, ça continue d'une manière positive pour l'équipe de France de volleyball cette fois, qui a gagné son 3e match en 3 rencontres lors de l'Euro qui se déroule en France. Cela s'est passé aujourd'hui à Montpellier, victoire 3-7-0 contre le Portugal.
La 5e journée de Ligue 1, suite et fin tout à l'heure avec Monaco-Marseille. En attendant, 2 matchs avaient lieu cet après-midi.
Et d'abord Nantes a battu Reims 1-0, un but de Koulibaly. Et puis Saint-Etienne et Toulouse se sont neutralisés. Les Verts étaient menés 2-0 avant que Romain Amouma ne réussisse un doublé et ne permette aux Verts de prendre un point à domicile.
Alors on en vient à la principale affiche de cette 5e journée, tout à l'heure au stade Louis II. Monaco, mal en point qui accueille Marseille.
Monaco avant-dernier du championnat avec seulement 2 points et pas un seul succès en 4 autres matchs. Marseille est un peu mieux loti, mais l'OM ne va pas se fier au modeste classement des joueurs de la Principauté, Bruno Blanza.
Non, Monaco n'a pas la tête d'un relégable, mais les Monégasques y sont dans la panade. Ils ne parviennent pas à décoller, malgré leur recrutement grandiose, à faire rougir un supporter de l'OM. 40 millions d'euros pour Ben Yedder, buteur avec l'équipe de France il y a une semaine, et puis un prêt bien malin du costaud Islam Slimani qui vient de marquer 3 buts en 2 matchs. Monaco est vraiment impressionnant sur le papier, mais le Rocher n'est pas encore bien solide en ce début de saison, d'où l'occasion à saisir pour l'OM et son défenseur Bouba Camara.
On va s'attendre à un très grand match, on est sur une bonne dynamique et c'est à nous d'aller s'imposer à Monaco.
L'OM qui va changer de schéma tactique, passer avec 4 joueurs offensifs en raison de la blessure de Florian Thauvin. La longue absence du meilleur Marseillais présent en près d'un but sur 2 de l'OM ces 2 dernières saisons, qui ne change rien aux ambitions marseillaises de podium selon Bouba Camara.
On sait où on veut aller, c'est pas parce qu'il manque un joueur ou un joueur est blessé que nos ambitions vont changer, ils restent les mêmes.
Et dans cette course à l'Europe, l'OM a l'occasion ce soir, en cas de victoire, de mettre Monaco concurrent direct à 8 points.
Bruno Blanza, donc le coup d'envoi de Monaco-Marseille, c'est à 21h.
En rugby, à 5 jours du premier match des Bleus en Coupe du Monde, c'est une cérémonie très symbolique qui a eu lieu aujourd'hui au Japon pour le 15 de France.
Et c'est celle de la remise des capes. Alors autrement dit, ce sont des casquettes qui marquent l'intronisation des joueurs dans une liste pour la Coupe du Monde. Alors tout cela à 5 jours, vous l'avez dit, du premier match des Bleus, ce sera face à l'Argentine. Bonsoir Fanny Lechevestrier, vous avez pu assister à cette cérémonie et il y avait de l'émotion aujourd'hui chez les Bleus.
Oui. Cette émotion se lisait cet après-midi sur les visages des joueurs, notamment lorsqu'ils sont entrés dans ce grand théâtre de Kawaguchiko, accompagnés par les applaudissements des enfants des écoles de rugby alentour. Beaucoup de ces enfants qui portaient un maillot bleu, qui avaient tous des affichettes avec écrit en français « Bonne chance, allez les Bleus » et même « Bon courage ». Cela fait sourire parce que c'est vrai que le parcours des Bleus dans cette Coupe du Monde ne paraît pas simple, mais c'était vraiment un joli moment de communion avec la population locale, moment solennel aussi, avec un groupe de percussion qui a interprété pour les Bleus des musiques traditionnelles japonaises. Je vous en fais écouter un petit extrait. Puis est venu le temps de la remise des capes, des casquettes bleues et or à pompons dorés à chacun des joueurs. Un moment important qui vous fait entrer de plein pied dans la Coupe du Monde, c'est ce que nous a expliqué Guillaume Guerrado, le capitaine du 15 de France.
Tous les joueurs, si vous leur posez la question... retrace, je pense, un petit peu leur parcours de rugbyman, d'homme aussi. Donc forcément, il y a toujours beaucoup d'émotions et voilà tous les sacrifices que l'on peut faire aussi. Et voilà, c'est toujours des moments très importants d'une carrière de rugby, mais surtout en tant qu'homme.
Les Bleus qui sont ensuite allés poser pour la photo officielle au sanctuaire de Kitaguchi. C'est un sanctuaire classé au patrimoine de l'UNESCO qui mène au Mont Fuji, au milieu de cèdres centenaires. Certains joueurs ont suivi le rite du Temizuya pour se purifier et y faire une prière. Espérons qu'ils aient trouvé une force avant d'attaquer non pas le Mont Fuji, mais la montagne Coupe du Monde.
Alors, justement Fanny, comment vont les Bleus? Est-ce qu'ils sont prêts à défier l'Argentine samedi prochain?
Ils se disent prêts en tout cas et c'est vrai qu'à force de les entendre nous le répéter depuis plusieurs jours, on a presque envie de les croire capables de faire une grande Coupe du Monde. On le voit à l'entraînement et même encore aujourd'hui, il y a un bel état d'esprit qui souffle sur ce groupe, devenu une bande d'amis au bout de 2 mois de préparation, nous disent-ils. Le sélectionneur Jacques Brunel, lui, nous a parlé hier de conviction et que son ambition, puisque personne, à commencer par les médias, ne les voyait aller en quart de finale, eh bien, c'était de montrer à tous qu'on avait tort et donc de sortir des phases de poule. Alors, méthode couée ou non, difficile de savoir. On va vite être fixé, puisque le match face à l'Argentine que les Bleus doivent absolument gagner pour espérer se qualifier arrive maintenant dans moins de 5 jours.
Merci Fanny Lechevestrier. France-Argentine, ce sera à 9h15 du matin, heure française, donc pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour les Bleus. Et puis, le rugby, c'est aussi le top 14 ce week-end. 2 matchs aujourd'hui pour clôturer la 4e journée. Victoire de Toulon face au Racing 92. Les Toulonnais se sont fait peur, mais se sont imposé finalement 32-29. Et puis Agen a battu Montpellier 29-10 en milieu de journée.
Un mot de cyclisme, Jean-Pierre, avec le Tour d'Espagne qui vient de s'achever. Une très belle surprise côté français.
Oui, Geoffrey Bouchard, 27 ans de l'équipe AG2R, endosse le maillot de meilleur grimpeur. Il était simplement venu pour terminer le Tour d'Espagne. Il était encore assistant commercial dans une grande enseigne de magasins de sport il y a seulement 2 ans. Rappelons que dans 2 semaines, ce seront les championnats du monde en Angleterre.
À 19h24, un sujet inhabituel dans ce journal des sports. Après l'accident mortel qui a coûté la vie à une jeune cavalière française le week-end dernier, la question de la sécurité est de nouveau posée dans une discipline très pratiquée en France.
Oui, l'équitation, c'est 700 000 participants et même c'est le premier sport féminin en France le 7 septembre. Malheureusement, la jeune cavalière Thaïs Méheu, qui était l'une des cavalières les plus prometteuses de l'équipe de France, s'est tuée à 22 ans alors qu'elle disputait le championnat de France de cross. Elle rêvait de représenter la France aux prochains Jeux Olympiques. Ce nouveau décès dans cette discipline qui a pourtant fait d'énormes progrès ces dernières années, pose encore et toujours la question de la sécurité. Guillaume Batin, vous êtes allé dans un centre équestre à Lézigny, en Seine-et-Marne, près de Paris.
Marie Naï a 31 ans, dont 24 à cheval. Depuis une dizaine d'années, elle monte Surprise, une jument âgée de 13 ans qu'elle a achetée très jeune.
Elle, c'est une crème. Des fois, je dis que c'est une jument de Barbie parce que tu peux en faire ce que tu veux, comme un cheval de Barbie.
Et pourtant, lors d'un cross en mars 2016, Surprise a stoppé net en haut d'une butte et Marine s'est grièvement blessée.
Je me suis cassé les deux os de la jambe, tibia et péronée. Oui, il faut pas nier que le cross, c'est plus dangereux que le reste. Pourquoi ? Parce qu'on va beaucoup plus vite. Ça peut aller entre 400, 500 mètres minute, 550 mètres minute. Et on saute des obstacles fixes. Et c'est là où réside le vrai danger, c'est qu'un obstacle fixe, eh bien, si un cheval le touche, l'obstacle ne tombe pas. Ça peut être le cheval ou le cavalier qui tombe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on part avec un équipement extrêmement renforcé. Un gilet comme un gilet pare-balles, un airbag, si c'était pas dangereux. Donc on essaie de limiter au maximum le risque. Bien sûr qu'il est toujours présent et on pourra, à mon avis, jamais le supprimer entièrement. On dit que pour être un bon cavalier, il faut tomber au moins 100 fois.
Galop à droite, tu réorganises, regarde où tu vas.
Marine s'entraîne avec Gilles Véron, cavalier professionnel, 40 ans d'expérience. Quand il a commencé, il montait coiffé d'une simple casquette et habillé d'un gros pull.
Sur le cross, c'est très sécurisé, il y a des juges à chaque obstacle, il y a quand même énormément de secouristes sur tout le tracé pour qu'il y ait toujours quelqu'un à disposition s'il y a un problème qui se passerait sur cette épreuve de fond. Après, je crois que le risque zéro n'existe pas. Et un cheval peut se louper, même si c'est un crack, il peut mal évaluer le saut et se déséquilibrer sur une épaule et effectivement la chute à ce moment-là intervient. Il faut essayer d'arriver à trouver des solutions encore plus adaptées et réfléchir tous ensemble pour améliorer ça.
Malgré les progrès, le cross est régulièrement mis sous pression par le CIO. Le Comité international olympique a plusieurs fois envisagé d'exclure la discipline de la famille olympique pour le danger qu'il représente pour les cavaliers et les chevaux.
Salut ma poulette! À demain.
Le reportage de Guillaume Batin au centre équestre de Lézigny en Seine-et-Marne.
Pour terminer, des nouvelles de l'équipe de France de Cécifoot qui est à Rome où elle dispute à partir de demain le championnat d'Europe de cette discipline, le football pour aveugles et malvoyants.
L'équipe de France rêve d'un titre, au moins une finale pour décrocher l'un des deux billets qualificatifs pour les Jeux de Tokyo l'été prochain. L'une des stars du Cécifoot en France, Yvan Wanji, vice-champion paralympique à Londres en 2012, nous explique comment on pratique ce sport.
Le Cécifoot, c'est du foot à 5. Seul le gardien de but est voyant et les 4 joueurs de champ de chaque équipe, on a tous un bandeau sur les yeux parce que parmi nous, il y a des mâles et les non-voyants. Pour repérer la balle, il y a des clochettes à l'intérieur permettant aux joueurs de le repérer. Et derrière la cage adverse, il y a un guide, c'est quelqu'un qui voit. Donc dès qu'il parle, les attaquants visualisent la cage.
Les gars, on y va s'il vous plaît.
Ouais. Là, sur le penalty, il va taper sur les poteaux pour nous donner les 3 informations.
Poteau gauche, poteau droit.
Le joueur de Cécifoot visualise la cage et là il peut tirer. Tout passe par de l'information et par des codes pour que le porteur de balle sache où sont les adversaires, pour pas qu'on se rentre dedans. J'interviens énormément dans les écoles notamment, dans les entreprises, pour que les gens découvrent cette discipline et pour que les gens comprennent que le handicap ne nous met pas dans une case. On est d'abord et avant tout des joueurs de foot avec pour particularité d'être mal ou non-voyant. Mais on reste d'abord et avant tout des athlètes. On veut être vu comme les autres. Le handicap, c'est pas ce qui nous définit.
Yvan Wanji, joueur de Cécifoot de l'équipe de France, qui joue donc l'Euro à partir de demain. En fait, le premier match de la France, ce sera mardi, à suivre sur la page Facebook de Cécifoot France officielle. Un mot de rallye, Sébastien Ogier se relance dans la course au titre de champion du monde. Il a remporté le rallye de Turquie aujourd'hui et se rapproche du leader, l'Estonien Ott Tänak. Ogier n'est plus qu'à 17 points devant le pilote Citroën. Et puis le championnat du monde de vitesse à moto, Fabio Quartararo est deuxième, juste derrière l'Espagnol Marc Marquez, qui l'a doublé dans le dernier tour du Grand Prix de Saint-Marin. Aujourd'hui, Fabio Quartararo est plus que jamais un homme à suivre.
Et voilà, c'était le dernier mot de Jean-Pierre Blimeau. Merci Jean-Pierre pour ce journal des sports.